En Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Je vais la lire en français courant. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils se vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se met à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe, et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est revenu à la vie. Pardon, il était perdu, je l'ai retrouvé. » Et une joyeuse fête commença. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce matin, nous venons en toute humilité devant toi, Seigneur, pour t'implorer, Seigneur, que tu nous accordes ton aide. Seigneur, nous sommes conscients que cette parole que nous avons lue ce matin, ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole qui est descendue du ciel, Seigneur, et qui, à travers celui qui est la vérité, la vie et le chemin, eh bien, Seigneur, nous a été communiquée. Cette parole, Seigneur, elle contient un enseignement pour chacun de nous, sans exception, ce matin. Seigneur, tu connais les besoins de quiconque ici dans ce lieu. Et nous savons, Seigneur, que tu as la capacité de répondre à tous nos besoins. Seigneur, si nos gouvernements, notre monde est à bout de souffle, parce qu'il n'a aucune solution pour régler les problèmes que notre société, Seigneur, sur cette planète vit, Seigneur, toi, tu n'es pas à court de solution puisque tu connais le cœur de l'homme. Tu sais ce dont il a besoin. Et Seigneur, nous te demandons de déverser dans le cœur de chacun ce matin, la portion, Seigneur, qu'il a besoin pour, premièrement, réaliser combien tu es vivant. Deuxièmement, pour voir, Seigneur, combien tu es l'enrichir de la personne de Jésus-Christ. Et Seigneur, combien tu veux aussi changer notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, comme ce fils prodigue dans Luc chapitre 15. Que ton Saint-Esprit puisse parler, Seigneur, à chacun de nos cœurs ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Et je pense que cette histoire, elle représente, j'ai prêché souvent sur ce passage-là, à chaque fois on amène Dieu nous met à cœur de présenter autre chose. On sait que la parole, elle a une infinité d'applications. Ça dépend à quelle foule on s'adresse. J'ai lu dans un livre, dans la biographie d'Hotel Moody, qu'il a prêché 120 fois sur le même passage dans l'Évangile de Luc, et à chaque fois, eh bien, il devait apporter des modifications, parce que Dieu, par son Saint-Esprit, lui parlait. Dieu connaissait la foule qu'il avait devant lui, Dieu connaissait les gens, en particulier chacun d'entre eux, et il savait la portion que chacun avait en réserve ce matin. Alors, ça fait des années que j'ai pas parlé sur ce passage, mais ce matin, j'avais à cœur de le faire, et je pense que cette histoire, elle représente en grande partie la vie de la plupart d'entre nous. Et c'est Jésus qui la raconte et elle commence ainsi. Au verset 11, il est écrit ceci. Un homme avait deux fils. Le plus jeune des deux fils va avoir une conversation sérieuse avec son père. C'est ce qu'on voit dans le texte ici. Même s'il ne manque de rien, il est fatigué de rester à la maison et de se soumettre à l'autorité de son père. C'est un jeune homme, écoutez, la vie s'ouvre devant lui, il désire profiter de la vie. Il veut absolument découvrir le monde et les plaisirs que ce monde peut lui apporter. Il est tellement impatient de partir qu'il n'attendra même pas que son père meure pour toucher son héritage. Il va voir son père et qu'il lui demande maintenant, « Donne-moi maintenant ma part d'héritage. » Et le cœur le remplit de tristesse, verset 12. Le père va partager ses biens entre ses deux fils. Verset 13. Peu de jours après, le jeune fils vendit sa part de la propriété pour ensuite rassembler ses affaires et partir avec son argent vers ce pays éloigné, c'est-à-dire ce monde dans lequel il rêvait de réussir sa vie, de s'amuser. Et le père, il est toujours vivant. Moi, en tant que parent, en tout cas, si je donne mes biens à mes enfants, si je laisse un héritage à mes enfants, c'est sûrement pas pour apprendre, je pourrais pas l'apprendre, je vais être mort, mais pour penser qu'ils peuvent vendre tous mes biens ou se débarrasser de ce que j'aurais passé une vie entière à amasser et de tout dilapider au bout d'une journée ou deux jours ou deux, trois semaines, quoi. Et ici, le père, il est vivant et le texte nous dit peu de jours après, quoi. Quel respect, le manque de respect que cet enfant-là peut avoir envers son père, quoi. Non seulement il n'attend pas que son père soit mort pour lui demander son héritage, mais en plus, son père est vivant et devant sa face, il vend les biens que son père, il a reçus de son bien peu de jours après, nous dit le texte. Je ne sais pas comment on réagirait si nos enfants nous faisaient cet affront, quoi. Si on permettait de notre vivant de donner notre bien et nos biens à nos enfants sans qu'on en ait l'usufruit, qu'on leur donne leur bien parce qu'ils nous le demandent, parce qu'ils sont pressés d'obtenir notre héritage. Et là, qu'on voit, on apprend au bout de deux semaines, eh bien, qu'ils ont vendu notre maison, qu'ils ont vendu aussi, qu'ils ont vidé notre compte de banque, pour ceux qui ont de l'argent encore dans le compte de banque, et ainsi de suite, quoi. Je sais pas comment on réagirait. Et ici, à travers le Père, on a vraiment l'image de Dieu, quoi. On a vraiment l'image de Dieu qui, malgré nos moqueries, malgré nos péchés, malgré qu'on n'en a rien à cirer de lui quand ça va bien, et qu'on s'approche de lui quand ça va mal, quoi. Malgré tout ça, eh bien, on a cette image du Père qui ne condamne pas, qui ne juge pas son fils, quoi. Qui a le cœur rempli de tristesse de voir le manque de respect que son fils a pour celui qui lui a donné la vie. Et Dieu dans le ciel, c'est la même chose. On a une très mauvaise image, les religions nous ont laissé une très mauvaise image de Dieu. Les non-croyants pensent que toute la misère qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui la cause. J'ai jamais vu Dieu aux commandes d'un F-16 en train de bombarder des pays, démarrer des guerres, quoi. C'est les hommes, c'est le cœur de l'homme qui est pourri, c'est ce que la Bible nous dit, hein. Le cœur de l'homme est corrompu par-dessus tout. Qui peut le connaître, quoi? Et pourtant, Dieu s'acharne. Dieu aspire à transformer nos cœurs, quoi. Et à faire en sorte qu'il ressemble à celui de Jésus-Christ. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de notre Créateur. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit voit le Créateur. On n'est pas différent. On est la même personne, hein? Dieu en trois personnes, pardon. Oui. Mon caractère reflète le caractère de Dieu. Dieu est esprit, personne ne peut le voir. Alors, je me fais homme dans la personne de Jésus-Christ. Je vais vous montrer l'amour que j'ai pour vous. Malgré que vous vous moquez de moi, malgré que vous m'insultez en désobéissant à ma loi, eh bien, moi, je viens mourir pour que vous puissiez naître de nouveau, recevoir une nouvelle vie, recevoir une nouvelle espérance, quand débuter une nouvelle vie. Il n'y a pas d'âge pour débuter une nouvelle vie avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand elle commence, eh bien, elle ne se terminera jamais parce qu'elle transcende la vie après la mort, et c'est pour l'éternité. Ouais, ça, c'est le vrai christianisme, ça. Une personne, la personne de Jésus-Christ. Ouais. Peu de jours après, nous dit le verset 13, le jeune fils vendit sa part de la propriété pour ensuite rassembler ses affaires et partir avec son argent vers ce pays éloigné qu'il aimait tant. Il marche d'un pas joyeux, le cœur plein d'espoir vers ce monde qui s'ouvre à lui, se souciant peu de son père, qui le regarde s'éloigner les yeux humides, et le cœur triste parce qu'il sait que son fils s'apprête à pénétrer dans un monde hypocrite, mauvais et sans pitié. Ouais. Voilà pourquoi c'est important que lorsque des parents chrétiens veulent présenter leurs enfants devant l'Église, voilà pourquoi c'est important que l'Église puisse tenir aussi son engagement de l'élever dans les voies de Dieu. Hein? On est mis au monde, on y regarde, et qu'est-ce qu'on dit? C'est souvent les paroles des parents. « Ouf, il y a de l'air d'un petit ange, un vrai petit ange, quoi. Hein? » Oui. Quand il commence à avoir des ongles assez longs, puis quand il commence à avoir minimum 4 dents dans la bouche, eh bien, vous n'avez pas besoin de lui montrer à vous mordre, à vous griffer. Il va le faire tout seul, quoi. Hein? Ouais. Aussi, autant il y a de l'air d'un petit ange, autant la Bible nous dit à travers l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, que le péché habite dans le cœur de l'homme. Mais tôt ou tard, On n'aura pas besoin de lui apprendre à enseigner à lui faire le mal. On va devoir apprendre à lui enseigner à faire le bien, parce que le mal, ça sort de façon tout naturelle dans le cœur de l'homme, quoi. On a hérité ça du premier Adam, quoi. Et de voir soit rendu à Dieu qu'à travers le dernier Adam, la personne de Jésus, eh bien, que Dieu, Jésus, en Jésus-Christ, ce cœur peut être complètement transformé et être amené au plan premier de Dieu, quoi. Ouais. Pas vivre pour nos propres besoins, mais quand même dans un but égoïste, mais vivre pour les autres avec un cœur bienveillant qu'on reçoit du Seigneur Jésus-Christ à la nouvelle naissance. Dans cette histoire, je le répète, le Père, il représente Dieu, et le Fils représente l'homme qui cherche à vivre sans Dieu sa vie en suivant son propre chemin parce qu'il est fatigué d'être sous l'autorité de son Père. Et combien, pourquoi, une des raisons pourquoi les gens veulent pas prendre cette décision pour Jésus-Christ, c'est parce que, pourquoi? C'est parce qu'ils veulent rester le maître de leur vie. Ils veulent pas soumettre leur vie entre les mains de quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre leur enseigne comment ils doivent vivre. On est élevé comme ça, on veut rester le maître de notre vie. On veut pas que personne nous dise comment on doit vivre, comment on doit fonctionner dans la vie, ce qu'on a à dire, comment on doit penser. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire parce que sa façon de penser, sa façon de voir les choses, eh bien, elle bouleverse nos vies. Elle nous amène à penser comme lui. Et là, on vit plus pour soi, on vit pour les autres, quoi. Jésus est pas venu pour vivre pour lui-même, et heureusement, quoi. Heureusement. Mais il est venu donner sa vie, nous dit la parole, pour le monde. La première chose que Jésus veut nous montrer ici, c'est que le péché commence dans notre cœur à partir du moment où nous désirons faire ce qui nous plaît plutôt que de faire ce qui plaît à Dieu. En d'autres mots, c'est l'homme qui veut vivre sa vie sans Dieu et qui cherche à diriger sa vie, comme il l'entend et ce, à sa manière. C'est là où le péché commence, c'est l'essence même du péché. Jésus veut non seulement nous montrer dans cette histoire comment le péché commence, mais aussi comment il peut prendre des proportions insoupçonnées et les ravages qu'il peut faire dans nos vies. Ce qui est extraordinaire ici, le Père, il connaissait les intentions de son Fils. Il savait ce que son Fils allait faire de son argent. Et pourtant, il n'a pas refusé de lui donner sa part d'héritage, parce qu'il savait aussi qu'un des moyens pour lui d'acquérir une certaine sagesse, c'était en passant par la pénible école de l'expérience de la vie. Ouais. Ah, quand on est jeune, on est tout petit, c'est un ange. Après, on grandit, on rentre à l'école, on subit l'influence des camarades de classe. Après, on tombe dans l'adolescence, on subit l'influence des sorties des week-ends avec les compagnons, les camarades de classe. Après, on commence à rentrer dans la vie. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit que le rêve, que la beauté, que les lumières et tout le tralala que le monde nous offre, eh bien, souvent, on l'expérimente dans la souffrance. Verset 13 à 16. Il est écrit, arrivé dans ce pays lointain, la vie du jeune homme va se résumer à s'amuser, à boire, à jouer, à fréquenter les endroits où il y a du bruit, à courir les filles, bref, à ne se priver de rien. Sa devise, c'est quoi? La vie est trop courte, il faut en profiter. Profitons-en au maximum. Et le jeune homme va vivre dans la débauche et dans le désordre, c'est ce que le texte nous dit. Il va vivre dans la débauche, et dans le désordre, et dépenser ainsi toute sa fortune, en fait, toute la fortune de son père, quoi. Toute la fortune que son père lui a donnée. Parce que le garçon, il n'a jamais travaillé une minute pour ramasser sa fortune. Il n'en avait pas, quoi. Non. Là, il marche sur la fortune de son père, quoi. Il marche sur la carte bancaire de son père, quoi. Il a eu le mot de passe, et puis là, il dépense. Et il dépense en folie de toutes sortes, quoi. Et le texte, verset 14, nous dit, quand il eut tout dépensé son argent, une grande famine survint dans le pays, et il commença à manquer du nécessaire. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un temps de récession qui s'est installé dans le pays. Les gens perdaient leur emploi et les banques alimentaires ne suffisaient plus à répondre à la demande. Certains perdaient leur maison parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et ils se sont retrouvés dans la misère. Et qu'est-ce qui va arriver comme en temps de récession? Eh bien, l'optimisme va faire place au pessimisme. Et un esprit d'angoisse va se répandre dans la population. Et elle n'épargnera pas notre jeune homme ici. Certains étaient incapables de faire face à cette crise, et voyant qu'ils vont tout perdre, eh bien, il y en a qui vont même s'enlever la vie. C'est ce qui arrive souvent dans les périodes de récession, dans les périodes de grande famine. Le jeune homme, il est complètement désespéré et seul, car il expérimente ce que plusieurs ont vécu avant lui. Quand vous avez de l'argent, vous avez des amis, mais quand vous n'en avez plus, eh bien, trop souvent, vos amis vous laissent tomber. Et pour ne pas mourir de faim, qu'est-ce que le texte nous dit ici? Il va offrir ses services à un des habitants du pays qui va l'envoyer dans les champs garder les cochons. Et le texte nous dit ici qu'il aurait bien voulu se nourrir de la nourriture que les cochons mangeaient, versets 14 et 15, mais personne ne lui en donnait. Ça vous donne une image de ce que le monde étranger pouvait, ce qu'il valait aux yeux de ce monde. Les cochons passaient avant lui, quoi. Lui, il avait pas de problème s'il mourait, s'il crevait de faim. Mais pas les cochons, quoi. Le jeune garçon pouvait pas le bouffer. Et les cochons représentaient de l'argent, quoi. C'est de la viande, hein. Ouais. Et en plus, c'était un juif. Et on va en parler. Nous avons là une image des conséquences que produit le péché dans la vie de quelqu'un. Le premier fruit du péché, c'est le plaisir. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi pour dire que s'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, si on n'y trouvait pas un petit brin de plaisir, on ne pécherait pas. Le jeune homme a d'abord eu du bon temps. Il y a des gens qui disent que vous ne retirez pas de plaisir à vivre dans le péché, mais moi, je vous dirai pas cela ce matin, parce que vous ne me croiriez pas si je vous disais le contraire. Vous avez déjà essayé de vivre dans le péché, vous y avez trouvé du plaisir, et si je vous disais qu'il n'y a pas de plaisir dans le péché, je vous mentirais. J'ai vécu dans le péché, et j'ai aussi trouvé du plaisir. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de plaisir dans le péché, parce que la Bible ne dit pas le contraire. S'il est vrai qu'il est écrit qu'il n'y a pas de paix pour celui qui pêche, il est aussi écrit dans la Bible qu'on trouve du plaisir dans le péché. Dans Hébreux chapitre 11, verset 25, pour ceux qui ont leur Bible. Il est écrit, Hébreux chapitre 11, verset 25. Il est écrit que lorsque Moïse eut à prendre une décision, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir du péché. Pas de souffrir du péché, mais de jouir du péché. Mais il est aussi écrit que ce fut pour un certain temps. Seulement, un temps très court. Frères et sœurs, si le péché n'apportait pas un semblant de plaisir, il y a beaucoup de péchés que les gens ne commettraient pas. On trouve donc un certain plaisir dans le péché, mais c'est toujours pour un certain temps seulement, nous dit la parole. Parce que la deuxième conséquence, il y a des conséquences au péché. Et la deuxième conséquence que produit le péché, c'est la solitude. Verset 17. Alors il se mit à réfléchir à sa situation. C'est toujours la deuxième conséquence que nous retirons du péché. On se sent seul et le cœur vide. Et très souvent, il y a des gens qui vivent cette famine au sens littéral du terme. Combien de personnes aujourd'hui n'auront rien à manger ce midi ou n'auront pas d'endroit pour dormir ce soir, alors que d'autres ne manquent de rien? Un jour, un de mes amis m'a montré un homme assis sur un banc dans un parc du centre-ville de Montréal. Il m'a dit, « Tu vois cet homme qui a les cheveux en broussailles, habillé avec des vêtements en lambeaux? » Eh bien, cet homme, il exerçait la médecine dans le passé. Il a fait la fête une grande partie de sa vie. Il s'est mis à boire, il s'est mis à sortir, puis il a vécu des temps difficiles, et il se retrouve aujourd'hui sur ce banc, esclave de ce qui lui avait donné du plaisir. Je dois avouer que les gens ne finissent pas toujours de cette façon dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de choses à manger, qui boivent à volonté, qui ont beaucoup de biens matériels, qui possèdent des grosses voitures, et qui, malgré tout, finissent quand même par se sentir seuls. C'est pas juste chez les pauvres et la classe moyenne que les gens se suicident. Il y a un nombre assez imposant de personnes qui se suicident parmi les riches, parmi ceux qui ont de l'argent. Il y a quand même un nombre imposant de personnes qui se suicident parmi ceux qui ont réussi leur vie. Vous regardez les vedettes, vous regardez les stars, vous regardez les acteurs de cinéma, vous regardez les comédiens, vous regardez les dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas de, faut pas appartenir à une classe particulière pour ressentir que notre cœur est vide. On est tous des êtres humains. C'est la société qui nous classe par catégorie. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu nous aime tous de façon égale. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe où on est placé dans la vie, peu importe la fonction qu'on occupe dans la vie, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est merveilleux. Ça signifie quoi? Que Dieu nous aime tous d'un amour égal. Si les hommes ont des préférences, Dieu, lui, nous aime tous d'un amour égal. C'est extraordinaire. Et ça devrait nous réconforter. Il y a une autre famine que la famine naturelle, il y a une autre faim que la faim du corps, il y a la faim spirituelle. L'être humain possède une âme aussi bien qu'un ventre, quoique un grand nombre de gens vivent comme s'ils ne le croyaient pas, mais c'est quand même un fait. Le cœur de l'être humain est si grand, si vaste, si profond, que seul Dieu peut le remplir, et sans Dieu, l'homme n'est jamais satisfait. Il y a un jeune homme de 33 ans qui m'a appelé il y a quelques mois, qui me disait, je connais sa vie, ça ressemble un peu à la vie du jeune homme. Et il me disait, J'ai besoin d'avoir une réponse parce que je suis jamais satisfait. J'ai des filles comme ça. Je sors à tous les week-ends. Je vais dans les pays chauds au moins deux fois par année. Je prends 2-3 semaines de vacances à chaque fois dans ces pays-là. Et mon cœur, c'est lui qui m'a dit, hein. Il est en train de me citer les Écritures, quoi. La conséquence de celui qui vit dans le péché, quoi, qui connaît pas Dieu. Il dit, mon cœur est jamais satisfait. Comment je peux le satisfaire? Comment je peux arrêter de toujours chercher à essayer de remplir mon cœur pour que je me sente pas seul? Pour que j'aie l'impression que je suis heureux, quoi. On le voit dans le monde, quoi. Le plan du monde, c'est quoi? Empêcher les gens de mourir d'ennui, c'est de leur créer des ambitions. T'as une belle télévision avec un écran plat. Bon, je connais pas les grandeurs en centimètres. Moi, je suis encore en pied, en pouce. Mais, écoutez, ça peut être grand comme ça, hein. Quand il y en a une encore plus grande qui va sortir, eh bien, on l'achète. On fait des versements par mois si on n'a pas d'argent. Et là, on est stimulé, une nouvelle ambition, quoi. On en a une plus grosse, quoi. Et c'est ainsi de suite, quoi. On achète une voiture. Et là, on gagne de l'argent, on travaille pour acheter cette voiture-là. Quand on a assez d'argent, on va la chercher. On s'assoit dedans. Et le premier mois, hein, ça sent le neuf, quoi, hein. Hey, là, tant aussi longtemps que ça sent le neuf, quoi. Hey, l'impression que j'ai réussi ma vie, quoi. Hein? Et quand ça commence à sentir l'usure, quoi, hein? Ben, moi aussi, je commence à être usé de l'utiliser, quoi, hein? Et qu'est-ce que je fais? On a la publicité qui est là pour nous créer d'autres ambitions, quoi. Pour nous éviter de mourir d'ennui, quoi. Mais quiconque ici appartient à Jésus-Christ ce matin, quiconque vit une vie intime et personnelle avec lui, ne peut jamais dire que sa vie chrétienne, elle est remplie d'ennui, quoi. En aucun moment. Il n'y a aucun chrétien qui peut risquer de mourir dans lui. Parce que le Seigneur, il s'occupe de remplir nos vies, quoi. De toutes sortes de choses. Ouais. Ça peut être même des épreuves. Le chrétien n'est pas privé, épargné des épreuves. Mais à travers les épreuves, contrairement au jeune homme, il y a une chose est certaine, on n'est jamais seul, quoi. Amen. On n'est jamais seul, quoi. Sachez-le, je serai tous les jours avec vous et ça jusqu'à la fin du monde, dit Jésus-Christ. Ouais. Une promesse dans Isaïe aussi. Je serai avec toi, dit Seigneur, quoi. Alors, peu importe qu'on vive des épreuves, peu importe qu'on vive des difficultés, on n'est jamais seul pour les affronter. On a la parole. Dieu nous donne aussi des solutions dans sa parole. Confiez-vous en moi, quoi. Vous êtes fatigués, vous êtes usés, vous êtes brûlés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, quoi. Je vous rajouterai pas quelque chose de plus pesant. Je suis pas là pour vous écraser. Je suis là pour vous soulager, quoi. Je suis là pour vous porter. Ouais. C'est extraordinaire, le Seigneur, quoi. Et tant qu'on n'a pas fait le pas, là, on ne peut pas avancer dans l'inconnu. Hein? C'est humain, ça. Hein? Ah, moi, si j'avais entendu l'Évangile avant 33 ans, hein? Quel bagage de mauvaises expériences je me serais épargné, quoi. Et le pire, c'est que je vivais sans Dieu puis je pensais que j'étais sur la bonne voie, quoi. Et c'est quand tu rencontres Jésus-Christ et son enseignement, tu t'aperçois que tu étais complètement à côté de la plaque, quoi. Et que c'est ton orgueil démesuré qui t'empêchait de voir les réalités, quoi. Et le jeune homme ici, il vit cette expérience-là que la plupart d'entre nous on a vécu, quoi. Il a voulu goûter au monde. Mais il y a un prêt à payer pour goûter au monde, quoi. Il y a des conséquences à chaque péché, quoi. Chaque péché qu'on commet, il y a toujours une conséquence. Si c'est pas maintenant, ça va nous rattraper à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais tôt ou tard, on va être frappé, quoi. Pas parce que moi je vous le dis ce matin du haut de la chair, parce que la Bible le dit, quoi. Et c'est ce que Dieu veut nous épargner. Dieu veut pas avoir une emprise sur vous. Ah non, ça c'est un dictateur qui fait ça. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu vous donne son enseignement, mais il vous forcera jamais à faire le contraire de ce que vous voulez faire. Il va vous donner la direction pour fonctionner, pour être heureux, pour avoir cette paix et cette joie. Il y a des gens qui ont la paix, mais ils n'ont pas celle que Paul parle dans Philippiens, une paix qui dépasse toute intelligence. Et ça passe par la croix, par une nouvelle naissance. Amen. Sans Dieu, c'est la sécheresse dans notre cœur. Sans Dieu, c'est un vide douloureux. Sans Dieu, c'est vivre sans jamais être rassasié dans notre cœur. Pensez à ce jeune homme qui se trouve avec les cochons, les cheveux en broussailles, les vêtements en lambeaux, qui meurt de faim, qui regarde à droite et qui regarde à gauche, les yeux dans le vide. Et nous pouvons voir dans ce fils prodigue, frères et sœurs, une image de notre propre cœur, une image de chaque personne qui, ce matin, dans ce lieu, vit sans Dieu. Et combien cela me rappelle cette période de ma vie où je vivais sans Dieu? La troisième conséquence ou le troisième fruit du péché, c'est la déchéance et l'esclavage. Jésus était un juif, et s'il avait eu un travail qui était considéré par les juifs comme étant bas et dégradant, c'est bien de celui de garder les cochons. Et ce que Jésus veut nous faire voir ici, c'est que vous et moi, nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Choisir de devenir des enfants de Dieu et de bénéficier de la protection de Dieu, de bénéficier de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, ou ne valoir pas plus qu'un cochon et d'être traité comme tel. Et ici, j'aime bien cette image du cochon, parce que c'est synonyme de ce que le monde pense de nous. On n'est qu'un numéro, quoi. On n'est qu'un numéro dans le monde. On n'est qu'un numéro parmi tant d'autres. Plus ça va sur les cartes et moins vos noms apparaissent. Une série de numéros. Et on viendra un jour, quand on mourra, on dira numéro 340-725 est mort. Ouais. On n'est qu'un numéro. Aujourd'hui, dans différents endroits de la planète, il y a des êtres humains qui ne valent pas plus qu'un cochon. Il y a des endroits où ça va tellement mal sur la planète qu'on serait prêt à sacrifier un enfant pour pouvoir manger un cochon. Ouais. Et la crise, elle dure depuis 2008. Il y a encore des gens qui perdent leurs emplois aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire qu'il va continuer à travailler demain. Ça peut nous tomber en pleine face, comme le mur de Berlin, il y a plus de 15 ans. Et c'est le choix qui s'offre à nous aujourd'hui, devenir un enfant de Dieu et continuer ce que la parole dit, continuer à être un enfant de colère, être sur le jugement de Dieu. Dieu a tout fait pour nous sortir du jugement. Dieu a tout fait pour nous éviter sa colère. La colère qui était due, qu'on aurait dû recevoir pour nos péchés, c'est lui qui l'a pris sur la croix. Pour qu'on puisse bénéficier du pardon de Dieu. Pour qu'on puisse bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est extraordinaire, ça. Nous, écoutez, on n'en a rien à cirer de nos péchés aujourd'hui. On n'ose même plus prononcer le mot péché à l'extérieur. Des erreurs, des petites bêtises. Mais la Bible appelle péché ce qui est péché. C'est la désobéissance à le commandement de Dieu. Et on mérite, il y a un jugement pour chaque péché. Et le jugement qu'on méritait, c'est lui qui l'a pris. Lui était sans péché. Il a été fait malédiction pour nous, pour que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu, le salut, à travers le sacrifice de Jésus. Et Dieu, en retour, qu'est-ce qu'il vous demande? Il ne vous demande pas de faire des œuvres pour vous racheter. Il nous a rachetés. Il dit, écoute, ce matin, je parle à ton cœur. Tu as un choix, tu te fermes. Tu peux dire, celui qui parle en avant, c'est un cinglé, c'est un illuminé. Ou dans ton cœur, tu peux te dire, écoute, c'est peut-être la vérité qu'il est en train de raconter ce matin. Et peut-être que Dieu veut me parler d'une manière toute particulière ce matin. Peut-être que c'est un rendez-vous que Dieu m'a donné depuis toute éternité dans ce lieu ce matin. Peut-être que Dieu visite mon cœur ce matin. Et j'ai deux choix. Je vais fermer la porte de mon cœur ou je lui ouvre mon cœur. Je connais pas trop, je connais rien de la Bible. Je connais rien de la parole de Dieu. Mais je vais l'ouvrir mon cœur ce matin. De dire, Jésus, viens faire un nettoyage dans ma vie. Viens faire un nettoyage dans ma vie. Je parais être un honnête citoyen aux yeux des gens. Je parais être une honnête citoyenne aux yeux des hommes. Et Seigneur, toi, tu peux lire dans mon cœur. Toi, tu peux pénétrer à l'intérieur de mon cœur et tu vois comment je suis pourri, Seigneur. Tu vois finalement que ça sent mauvais. Quand tu commences à faire la liste, quand tu commences à énumérer tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait de mal. Et ce matin, Seigneur, j'ai aucune raison. Je suis incapable de me racheter par rapport à tout ce que j'ai fait dans le passé. Et ce matin, je veux me placer ma confiance dans celui qui a pris mon passé, qui a pris ma vie sur lui, qui a subi le châtiment que je méritais, le jugement que je méritais pour mes péchés. Et en retour, Seigneur, j'accepte. J'accepte ton salut. J'accepte que tu me purifies, Seigneur. Et ça, c'est une expression de la Bible qui dit que le sang de Jésus nous purifie, nous lave de tout péché. Et Dieu, là, c'est pas un Dieu qui est rancunier. Dans deux semaines, dans trois semaines, si vous faites ce pas de foi aujourd'hui, Dieu ne commencera pas à vous ramener péché en surface. Hey, tu te souviens-tu de celui-là, là? Hein? Non. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas vous pardonner aujourd'hui. Pas un seul. Mais la décision, c'est vous qui devez la prendre ce matin. Ce jeune homme aurait pu être traité comme un fils dans la maison de son père et le servir dans la joie, le respect et la tranquillité. Mais au lieu de cela, il travaillait pour un étranger comme gardien de cochon, quoi. C'est à vous de décider soit que vous êtes un enfant de Dieu entièrement soumis à la volonté de Dieu pour le servir dans la joie, le respect et la tranquillité, ou être au service de ce monde et de l'esprit qui dirige ce monde et ne représenter qu'un numéro à ses yeux. Chers amis, quel chemin allez-vous choisir de prendre ce matin? Celui que Dieu vous trace, un chemin qui est étroit, un chemin qui mène à la croix, mais aussi au-delà de la croix, un chemin qui nous amène à la présence de Dieu. Maintenant et pour l'éternité. Versets 17 à 21, où vous continuez à vivre votre vie comme bon vous semble. Mais si vous prenez le temps d'examiner, faire un examen de conscience ce matin, êtes-vous heureux?
Êtes-vous sincèrement heureux dans la vie que vous menez si vous ne connaissez pas Dieu ce matin? Verset 17-21, le remède pour le péché. Alors le jeune homme se met à réfléchir sur sa situation. Il revoit la maison paternelle, il voit son père, il voit la table, toute bien garnie. Il voit les serviteurs qui sont bien nourris. Il s'écrit, verset 17, « Tous les ouvriers de mon père, c'est pas les enfants de son père, les ouvriers, tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger. » Jusque-là. Et moi, je suis pas capable d'aller porter ma main sur la nourriture des cochons, on m'a défendu. Et qu'est-ce qu'il dit? Tandis que moi ici, je meurs de faim. Il lève ensuite la tête et il dit, je vais partir pour retourner chez mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Le texte nous dit, il partit. Retournez voir son père. Verset 18 à 20. Voilà de quelle façon on peut régler notre problème avec le péché et avec Dieu. Première chose, il a commencé à réfléchir. Et le texte ce matin nous amène ici, quiconque sans exception, de commencer à réfléchir sur la situation dans laquelle on se trouve. Tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, le message de l'Évangile y passe comme une flèche, comme une voiture qui file à 240 sur l'autoroute. On n'a pas le temps d'analyser. D'abord ici, pourquoi le jeune homme est retourné, il a commencé à réfléchir sur sa situation. Et frères et sœurs, c'est à partir de là que le salut commence. En réfléchissant. Les gens disent que pour être chrétien, il faut être naïf et avoir une foi aveugle, mais ce n'est pas vrai. Le chrétien possède une foi qui provient d'une pensée honnête et sincère, parce qu'il a réfléchi sur sa vie passée, sur sa vie présente, et Dieu l'a amené à réfléchir où il va passer l'éternité. Et il a pris sa décision. Ce jeune homme, il a commencé à réfléchir. Certains m'ont déjà dit qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux choses spirituelles. Pourtant, ils devront tous prendre le temps de mourir un jour. Tous, on va devoir prendre le temps de mourir. Mais c'est pas incroyable que la seule chose que nous soyons certains jours de vivre, c'est la mort, et que la grande majorité d'entre nous, nous ne sommes pas intéressés de savoir où nous allons passer l'éternité. Et tout cela parce que nous ne voulons pas y réfléchir. Deuxièmement, le jeune homme, après avoir réfléchi sur sa situation, il ne s'est pas contenté de réfléchir, il va prendre une décision. Je me lèverai et j'irai chez mon père. Cela ne suffit pas de réfléchir, vous devez prendre une décision. Voilà le deuxième pas à faire, nous dit Jésus. Il y a des gens ici ce matin qui ont souvent réfléchi à cette question et qui savent aussi bien que moi ce qu'ils doivent faire pour devenir chrétien. Mais ils n'ont jamais, jamais osé prendre une décision. Quelle est votre décision à tous ici ce matin dans ce lieu? Le jeune homme dit, je me lèverai et j'irai chez mon père. Voilà ce qu'il faut faire. Venir à Dieu qui veut être votre père. On a lu le psaume 103 tantôt. Un père rempli de compassion. Mais un père aussi qui est saint. Et un père qui veut qu'on nous amène à ressembler à l'image de Jésus. Il est saint. Trois fois saint. Et dis-moi, je peux changer ta vie. Moi, je peux changer tes valeurs. Et t'amener à faire en sorte que les valeurs pour lesquelles tu vis aujourd'hui, pour ce que tu penses être juste aujourd'hui, je peux les transformer, te montrer sur quelles valeurs maintenant tu peux vivre. Et ces valeurs sur lesquelles que je vais t'instruire, t'enseigner, ce sont mes valeurs à moi. Et je suis saint, je suis pas menteur, je suis pas voleur. Je suis pas là pour raconter des bobards, dit Jésus. Je suis envoyé pour vous dire la vérité. Voilà ce qu'il faut faire, venir à Dieu qui va être votre Père ce matin. Jésus a dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Voulez-vous venir à Dieu ce matin? Voulez-vous venir à Jésus-Christ ce matin? Jésus nous explique comment il faut venir à lui. D'abord, le jeune homme a reconnu qu'il avait péché. Il dit, je me lèverai, j'irai chez mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Vous devez venir à lui en disant, j'ai péché. C'est la seule façon pour un pécheur de venir à Dieu. Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du pardon de Dieu. Il n'y a pas une bougie, il n'y a pas un cierge que vous pouvez allumer, il n'y a pas une prière que vous pouvez faire qui peut effacer un seul de vos péchés. Il n'y a pas une seule de bonne action que vous pouvez faire pour vous racheter qui peut effacer un seul de vos péchés. Il n'y a que le sang de Jésus versé sur la croix qui peut effacer nos péchés. Dieu est prêt à recevoir le pire des pécheurs sur la terre qui veut venir à lui lorsque celui-ci reconnaît ses fautes. Le jeune homme a tourné le dos à son ancienne vie et il a tourné ses regards vers la maison du Père. Rapidement, avant de terminer, pense au malfaiteur sur la croix dans Luc 23. Dans Matthieu, on nous dit d'abord que les deux malfaiteurs se moquaient de Dieu. Les deux se moquaient de Jésus sur la croix. Les deux. Et finalement, il se passe quelque chose dans le cœur d'un des deux. Et il est suspendu sur une croix comme tous, comme son complice, qui insultait Jésus en disant, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste. » Et ça, c'est vraiment la prière d'un gars qui reconnaît qui est pécheur, mais qui reconnaît aussi qu'il mérite le châtiment qu'il est en train de subir. Il dit, pour nous, eh bien, pour nous, cette punition, elle est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos crimes. Pour nous, la punition, elle est juste, celle qui nous attend, si on vit sans Dieu, parce qu'on va recevoir la punition que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu a tout fait pour nous épargner cette punition. C'est ça, l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais lui, il n'a rien fait de mal. Lui, il ne mérite pas d'être sur une croix. Nous, on mérite. On a vécu une vie pécheur, une vie malhonnête. Nous, on mérite ce pourquoi on est crucifié. Nous, on mérite la sentence de mort qui nous a été imposée. Mais lui, il ne mérite pas d'être sur la croix. Lui, il ne mérite pas de mourir. Et il reçoit une révélation extraordinaire, ce malfaiteur. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, je te déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hey, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il était convaincu que ce Jésus était son sauveur, que ce Jésus était son Seigneur, puisqu'il pense déjà à son retour. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il y a déjà la résurrection dans son cœur. Il y a déjà le retour de Jésus-Christ dans sa prière. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et l'Église de Jésus-Christ, elle attend quoi aujourd'hui? Que son Seigneur ressuscité revienne, mette fin à toute cette misère dans le monde. Amen?
Oui.
Et on voit à travers les événements qui se passent dans le monde, la Bible, elle le prédit depuis des siècles, on voit que tout est en train de se réaliser. Tout est en train de se réaliser. Ouais. Parce que c'est Dieu qui l'a écrit, parce que Dieu savait ce qui se passerait d'avance, il a pu l'écrire dans sa parole. Ouais. Et on sait très bien qu'à l'extérieur, sans être négatif, la Bible nous dit que plus ça va avancer, plus ça va aller mal, et plus le mal va se répandre partout sur la terre. Ça va être mondial, quoi. Deux choix s'offrent à nous pour l'éternité, le paradis ou l'enfer. À quel endroit désirez-vous passer l'éternité ce matin? Dieu vous offre de passer l'éternité au ciel ce matin. Que vous puissiez partir de ce lieu en ayant la certitude que vos péchés sont effacés, que vous êtes pardonnés. Il reste maintenant un dernier pas à faire au jeune homme, partir et aller vers son père, lui avouer sa faute. Il dit, je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il partit pour retourner chez son père. Il est maintenant quelques kilomètres de la maison. Et alors qu'il est encore assez loin de la maison, nous dit le texte, là-haut sur la colline, on aperçoit un homme qui regarde dans toutes les directions. Il est venu jour après jour à son même endroit auparavant. C'est le Père. Il fixe du regard le chemin qui mène à la maison, attendant le retour de son fils qui ne s'est jamais montré. Et aujourd'hui, le Père qui aime son fils est encore là. Car lorsqu'on aime, on ne se lasse jamais. Il regarde toujours dans la même direction. Et ce jour-là, il voit une forme humaine qui marche sur le chemin qui conduit à la maison. Est-il possible que ce soit son fils? Il était bien portant lorsqu'il a quitté la maison. Il avait des rondeurs lorsqu'il est parti. Il portait des beaux vêtements et voilà que la silhouette qui apparaît devant lui laisse apparaître un individu aux joues creuses qui fait plus vieux que son âge. Il porte des vêtements délabrés, il marche péniblement. Quelle sera la réaction du Père? Et la réaction du Père ici, c'est la réaction que Dieu a envers tout pécheur qui vient devant lui, confesser son péché. Quelle est la réaction du Père ici? On va terminer avec ça. Verset 20. Lorsque son Père le vit, il fut ému de compassion. Il eut pitié de lui. Parce qu'il sait comment le monde est méchant. Il sait comment le monde est hypocrite. Il sait qu'est-ce que le monde, tout ce qu'il veut, c'est siphonner le meilleur de l'être humain. Il voit la condition de son fils. Et le Père, il est ému de compassion. Il commence pas à le reprendre à lui dire, hey, t'es un sans-cœur. T'es un imbécile. t'as dilapidé tous mes biens. Non, non. Il comprend la démarche de son fils. Si son fils vient le retrouver, c'est parce que son fils se repent de son péché. Et le Père, le texte nous dit, le Père, il est ému de compassion. Il court. C'est pas le fils qui court. Le Père, il court vers le fils. Et le Père a couru vers le monde à travers la personne de Jésus-Christ. Pour venir nous chercher. Pour qu'on puisse se courir devant lui. Et souvent, on voit Jésus et on recule. On entend parler de Jésus et on recule. Vous pouvez parler n'importe quoi de religion dans le monde. Mais aussitôt, vous, les gens, ils ont les oreilles ouvertes. Mais aussitôt, vous prononcez le nom de Jésus. Cling! Pourquoi? Parce que Jésus, c'est pas un hypocrite. Il est venu nous dire ce qu'on était. Il n'est pas venu pour nous flatter. Il est venu nous dire, écoute, t'es ça, c'est ça qui t'attend. Tu veux changer de vie, ben écoute, le bonheur t'attend aussi. Mais arrête de te leurrer à travers ton orgueil. Arrête de penser que t'es bon, alors que la Bible a dit que t'es perdu. Et moi, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Veux-tu le reconnaître ce matin? Ouais. Le fils commença à lui parler, lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce que le père fait? Mais le père l'arrête. Hey! J'en ai assez entendu. Il dit à sa serviteur, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau qui est engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quelle image extraordinaire nous avons ici, mes amis. Une image qui nous démontre l'attitude de Dieu envers le pécheur, qui est mort dans ses péchés, c'est-à-dire qui vit sans Dieu, qui est livré à lui-même, à ses faux raisonnements et aux différents courants de pensée dans ce monde dans lequel nous vivons. Quoique le fils avait oublié le père n'avait pas oublié le fils. Quoique les deux malfaiteurs se sont moqués de Dieu pendant toute leur vie, qu'ils n'avaient rien à cirer de la religion, rien à cirer de Dieu. Lorsqu'un des malfaiteurs s'adresse à Jésus, que Jésus tourne la tête pour l'écouter, Jésus lui dit pas, écoute, tu viens-tu pourquoi tu es sur la croix? Tu viens-tu que tu es un malfaiteur, un pourri, quelqu'un qui mérite rien? Et tu viens pleurer mon pardon? Jésus ne dit rien de ça. Il a l'attitude du Père. Il écoute, il voit la profondeur, la tristesse, la repentance de ce malfaiteur. Et il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est le passage qui détruit toutes les religions qui vous demandent de faire des œuvres pour penser entrer au ciel. Le malfaiteur, il peut rien faire. Il a deux bras, les deux pieds cloués, lui aussi. Il n'y a aucune bonne œuvre qu'il peut faire pour essayer de sauver son âme. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'ouvrir la bouche et de confesser son péché et de reconnaître en Jésus-Christ qu'il est sauvé et qu'il reçoit le pardon de ses péchés. Il ne peut pas se décrocher. Il ne peut pas pratiquer une religion. Dire, écoute Jésus, oh si je peux me décrocher, rentrer dans une religion pour essayer de faire des bonnes choses pour être sauvé. Non, il est fini, il est rendu au bout du rouleau, lui. Il est crucifié, les deux mains, les deux pieds, il est paralysé. Mais son regard a croisé celui de Jésus-Christ et ça a bouleversé sa vie. Il a vu que c'est un innocent qui était mort, qui méritait pas de mourir. Lui, il méritait. Pas facile, ça, d'avouer ça, hein? Moi, j'ai péché, je mériterais d'avoir le jugement de Dieu. C'est difficile pour un homme de dire ça. C'est difficile pour un être humain de dire ça. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ouais. Et quand t'oses dans ton cœur, dire, je suis un pécheur, je mériterais la mort. Mais je veux placer ma confiance dans la mort de Jésus pour qu'il n'y ait plus de jugement sur moi. Pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur moi. Parce que lui a été jugé, parce que lui a été condamné, il a pris ma place. Il y a un miracle qui se produit dans vos vies. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, dit l'apôtre Paul. Il n'y a pas une religion qui peut effacer nos péchés. Il n'y a qu'un seul sacrifice, l'agneau de Dieu, qui efface le péché du monde. Quoique le fils avait oublié le père n'a pas oublié le fils. De même, si vous avez oublié Dieu dans votre vie, lui, il ne vous a jamais oublié. Et si vous êtes ici dans ce lieu ce matin, c'est parce que vous avez toujours été dans le cœur de Dieu. C'est que Dieu vous avait dans sa mémoire et que Dieu vous avait donné rendez-vous pour l'éternité. Mais vous, aujourd'hui, vous allez décider où vous allez passer l'éternité à travers ce message. Vous avez le choix de partir d'ici, continuer la même vie que vous viviez avant de rentrer, ou de dire, moi ce matin, Dieu m'a parlé et moi je vais prendre une décision. Moi, je veux que Dieu bouleverse ma vie. Moi, je veux recevoir non seulement le pardon de mes péchés, mais la Bible dit aussi que quand on passe par cette nouvelle naissance, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, vient habiter dans mon cœur. et je ne suis plus jamais seul. C'est lui qui va m'enseigner, c'est lui qui va me consoler, c'est lui qui va me diriger. Mais le choix, c'est vous qui devez le faire ce matin. Il est possible que comme le fils ou comme le malfaiteur sur la croix, vous n'ayez pas pensé trop souvent à Dieu ces dernières années. Vous vous êtes peut-être moqué de lui et de ceux qui croient en lui. Et pourtant, il n'y a pas un seul jour où Dieu n'a pas pensé à vous, attendant de voir certains signes dans votre cœur qui confirmaient votre retour à la maison du Père. Si vous prenez la décision de vous détourner de votre péché ce matin et de vous tourner vers Dieu, même si vous êtes toujours loin de lui, Dieu ira à votre rencontre ce matin. Et il vous revêtira de sa robe de justice qui confirme votre pardon en Christ. Il vous mettra un anneau au doigt qui confirme ainsi que vous devenez son enfant. Il vous embrassera, signifiant par là que vous êtes réconcilié avec lui. Et il vous donnera les souliers pour vous soulager de vos douleurs et de vos misères. Il fera de tuer de vos gras, qui est une image du grand festin de joie et de bonheur que nous recevons en Jésus-Christ. Chers amis, voulez-vous revenir à la maison ce matin? Dieu veut vous pardonner en Jésus-Christ. Dieu veut vous accorder son pardon. Voulez-vous accepter son pardon ce matin? Penchons la tête, fermons les yeux. Prions. Peut-être des gens ce matin qui ont entendu ce message, peut-être pour la première fois, qui ont été touchés, qui ont été bouleversés, qui ont compris et qui voudraient changer de vie, comme la Bible dit, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, entrer dans un nouveau royaume, quitter ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu, avoir un nouveau maître, avoir un nouveau sauveur, c'est la possibilité que Dieu vous offre aujourd'hui. Il vous aime, il ne vous forcera pas. Si tel est votre cas ce matin, je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Seigneur mon Dieu, je veux te demander pardon. Pardon parce que j'ai réalisé à travers l'histoire du fils prodigue ce matin que j'ai péché. Que j'ai péché contre toi seul en te désobéissant. En menant la vie que je voulais, et non pas la tienne. Je reconnais aussi à travers ce message ce matin que j'ai entendu que, Seigneur, il n'y a aucune bonne œuvre que je peux faire pour racheter les mauvaises. Mais que l'œuvre qui peut me sauver, elle a été accomplie parfaitement à la croix, dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je confesse que je suis un pécheur. Je veux me repentir. Je veux me détourner de mes mauvaises voies pour emprunter ce chemin que tu places devant moi, que tu traces devant moi, ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Seigneur, je reconnais qu'en Jésus-Christ seul, je peux être sauvé, que mes péchés peuvent être effacés seulement par le sang versé à la croix. Et Seigneur, je reconnais qu'il est ressuscité et qu'une nouvelle vie s'offre devant moi, mais aussi une nouvelle espérance, à savoir de passer l'éternité dans ta présence, que la mort n'est pas la fin de tout, mais le début d'une nouvelle vie avec toi, là-haut. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je t'invite comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.